la fierté de Montréal, se bâtit autour du sport. Le soccer, sport de tous les Montréalais. Ensemble avec le CF Montréal. L'après-match, avec Maxime Vanhoute à la description et Sidney Faux à l'analyse.
Le CF Montréal s'est rendu ce soir au Gillette Stadium de Foxborough en Nouvelle-Angleterre pour affronter le Revolution. Ça a mal débuté pour la troupe de Laurent Courtois qui tirait de l'arrière 0-2 après 45 minutes de jeu. Mais le bleu-blanc-noir a réussi à trouver en lui les moyens d'aller chercher deux buts en deuxième demi sans en encaisser et de ressortir de cette rencontre avec un verdict nul. Malgré tout, à l'heure actuelle, le CF Montréal recule de un rang au classement de la MLS. Il faut quand même attendre le résultat en provenance de Nashville où les locaux Nashville sont en avance 1-0 face à Chicago. Bienvenue à cette émission d'après-match, tout le monde. Donc, Sid, j'ai envie de dire quand même que le CF Montréal a sauvé mise. On a fait preuve quand même d'un bon caractère en début de deuxième demi, mais vraiment, on a sauvé les meubles avec ce retour de l'arrière pour aller chercher un point ce soir en Nouvelle-Angleterre. Une défaite ce soir aurait fait extrêmement mal aux espoirs d'éliminatoire.
Oui, surtout que du côté des adversaires directs, on a quand même des résultats bon, qui ne sont pas tous à la faveur de Montréal. Et Montréal devait surtout à la fois être opportuniste sur le terrain du dernier de l'Est, mais aussi être dans la continuité de ce qu'ils ont affiché contre Charlotte, ce qui permet d'aborder le match de Chicago avec peut-être l'idée de faire une semaine de 7 points, ce qui serait vraiment parfois peut-être même impensable il y a quelques temps, mais tellement salutaire aujourd'hui. Ce qui a été vraiment très intéressant dans le match montréalais, c'est surtout cette deuxième mi-temps, évidemment. Mais c'est vraiment à la fois le sursaut d'orgueil, le caractère, l'envie, la prise d'initiative, le nombre de tentatives de frappe, les fautes aussi. Je pense que tout ça, c'est un tout. Et Montréal a mis tous les ingrédients pour se donner un scénario vraiment, vraiment intéressant en deuxième mi-temps.
Débutons avec cette remontée qui a été possible grâce à une meilleure volonté, un meilleur désir, du moins pendant une vingtaine de minutes, de créer offensivement. Et je crois que la consécration de ça est vraiment le but de Nathan Saliba parce qu'il ne l'a pas volé du tout ce premier but en MLS, le jeune produit de l'Académie. C'est un but que vous allez revoir là, sur vos réseaux sociaux cette semaine, j'en suis convaincu, celui de Nathan Saliba. Une passe de George Campbell et plein axe, tout juste sur la ligne d'entrée de la surface de réparation. Le milieu québécois est en duel, là, il est dos au défenseur et il prend la décision de se revirer, de faire une belle feinte à 180 et de tirer. Et c'était non seulement la bonne décision, mais c'était un geste technique de grande qualité de la part de Saliba. Quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent de la part du CF Montréal, ce genre d'initiative. Et ça a fonctionné pour Nathan Saliba ce soir. Et c'est la raison pour laquelle le score s'est terminé à égalité.
Oui, c'est deux buts en dehors de la surface de réparation. Déjà, je pense que c'est assez rare pour être souligné, Max.
C'est même quatre, si on veut, parce que ceux de la Nouvelle-Angleterre aussi l'ont été.
On gardera ça pour les descripteurs locaux du côté du Massachusetts. Donc, on a un Montréal qui a pris des risques, finalement. Je parlais du syndrome du héros, qui était aussi d'être lucide dans certaines situations. Par contre, la prise de risque, la prise d'initiative, elle est essentielle dans le foot. Lorsqu'on veut faire des différences, on a tout de même su rééquilibrer l'écart dans le nombre de tirs. Lorsque tu comptes les 14 tirs montréalais aux 16 de New England, c'est cette prise d'initiative qui manque terriblement, vraiment, dans la manière d'aborder les matchs côté montréalais. On a fini par se lâcher, tout simplement. Et on a pu afficher un meilleur visage. Et deux superbes buts ont été inscrits par Montréal, qui répondent aussi, effectivement, à deux très beaux buts côté New England.
On parle souvent, et t'en parlais en avant-match, des deux visages montréalais. On les a vus dans ce match-là, et on les a vus en alternance. Ça a mal débuté, on ne créait rien, on était fragile, on n'était pas intimidant défensivement, on laissait la Nouvelle-Angleterre agir à sa guise. Puis, quelques actions ont fait en sorte qu'on a repris confiance, on est allé marquer deux buts, mais on n'a pas été en mesure après ça de bâtir et d'amener cette énergie en fin de match. On aurait pu être porté à croire justement en raison de la remontée que c'est Montréal qui allait tenter d'aller, et en plus qu'on était sur la route, de vouloir aller chercher un point, même deux points supplémentaires plutôt face à la Nouvelle-Angleterre. Et non, on est comme retombé dans la fragilité en fin de rencontre. On a quand même su bien défendre et minimiser les chances de qualité, mais c'est quand même la Nouvelle-Angleterre qui était à la recherche des points supplémentaires en fin de rencontre. N'eût été là cette action un peu sortie de nulle part dans la dernière, les derniers instants de la rencontre.
Oui, c'est cette capacité à emballer les matchs dont je te parlais, qui manque un peu côté montréalais, mais il y a aussi le fait que Montréal a une faculté de couper son momentum, couper son énergie, cette fameuse prise d'initiative. Et souvent, c'est parce que on a à la fois cette volonté jusqu'au boutisme de relancer court, de repasser par l'arrière, de se mettre en place et avec une certaine lenteur. Et quand la technique manque dans la qualité des passes, et parfois au-delà de la technique, la lucidité, je te dirais, parce qu'il y a des moments où, à l'exemple de Bougaï, on a vraiment un joueur qui piquait du nez et qui ne voyait plus clair devant lui. Ces moments répétés redonnent finalement l'énergie à l'adversaire et redonnent tout simplement des opportunités, même au-delà de l'énergie, ça redonne des opportunités à l'adversaire de repartir vers l'avant. Et Montréal, dans un match qui avait basculé nettement en leur faveur, s'est retrouvé à faire une fin de match un peu en marchant sur les œufs et en grande difficulté. Alors que vraiment, Max, je pense qu'on l'a senti, toi et moi, Montréal était assez proche d'aller chercher un troisième but. Mais s'est retrouvé dans cette fin de match subie.
C'est intéressant parce que... Je regarde un peu, là, je me repasse dans ma tête le film de la deuxième demi et le CF Montréal a utilisé ces cinq changements. Mais j'ai envie de dire au final que ce sont vraiment les partants qui se sont, mis à part peut-être Clark et Marshall Rutty, là, qui se sont ressortis du trou dans lequel ils s'étaient eux-mêmes creusés parce que, d'abord, les deux buteurs étaient de l'alignement de départ, Pierce et Saliba. Mais également, je regarde les joueurs qui sont entrés. Ça a été difficile ce soir pour Raheem Edwards. Il a été un de ceux peut-être qui a contribué à refaire redescendre le rythme. Il a eu beaucoup de prises de décision. On n'a pas du tout vu Martinez n'eût été cette dernière action à la toute fin. Si ça avait mené à un but, on n'aurait absolument rien dit. C'est pour ça qu'on veut Martinez. Ça n'a pas mené à un but. Pas vu beaucoup non plus Yankov personnellement. Il y a eu quelques occasions ici et là. Mais vraiment, mis à part peut-être Marshall Rutty et Clark, au final, le trou qui a été creusé par les partants, ce sont eux-mêmes qui s'en sont un peu ressortis.
Ah, c'est vrai que Clark a vraiment montré qu'il est de plus en plus indispensable à ce 11 partant. Les fautes qu'il a subies, sa faculté à prendre le ballon et gagner des mètres, balle au pied. On a un joueur aussi qui est toujours vers l'avant, qui met de son corps, qui ferme des lignes de passe. Un joueur très intéressant. J'ai adoré ton expression, redescendre le rythme. C'est vraiment le problème montréalais. C'est qu'il y a des moments où ça peut s'emballer et en premier temps, à quelques reprises, je te l'avais dit, sur des situations qui devaient être des transitions rapides et qui sont finalement retrouvées à, d'une part, devenir des attaques placées. Et en plus de ça, l'attaque placée, finalement, c'est placée nulle part. On a vu à quelques reprises ces manques-là. Campbell part tout feu, tout flamme, crée du chaos, se fait fauter et amène au coup franc de Pierce, coup franc qui réduit la marque. Et quasiment 10 minutes plus tard, dans une situation qui aurait pu être similaire, il se met dans la phase de réparation, et il va dans un centre troisième poteau incompréhensible. Et c'est ce manque véritablement d'audace sur des périodes continues de Montréal, c'est très problématique finalement, je pense. Parce que... voilà, on a une équipe qui pourrait mettre le feu, pourrait faire douter. Je pense que New England, à 2-2, ils étaient, dans leur tête, c'était terminé. Parce qu'il y a le poids de toutes les défaites accumulées, il y a le poids de cette dernière position dans l'Est, il y a le poids des blessures et d'une saison qui n'est pas vraiment très rose du côté de la Nouvelle-Angleterre. Mais Montréal leur donne encore une petite chance d'espérer parce que on joue à contresens trop souvent. Et ça aurait pu coûter, même si ça aurait aussi pu fonctionner pour Montréal à la fin, mais de façon un peu anecdotique, je dirais que ce qu'on va retenir, c'est que ce dernier 10 minutes montréalais, il est décevant parce que finalement, c'est ce qu'on a vu dans la première mi-temps.
Oui, effectivement, et j'ai bien hâte d'entendre l'entraîneur-chef Laurent Courtois, parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon dans cette rencontre. Et justement, on va y aller au point de presse de l'entraîneur-chef Laurent Courtois, qui est prêt à rencontrer les médias.
On débute avec une question de Sidney Faure.
Laurent, point important sur la route face à un adversaire qui a posé beaucoup de problèmes à domicile. On a eu un état d'esprit qui a été vraiment différent d'une mi-temps à l'autre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui à la fois s'est passé à la mi-temps et ton regard sur les deux mi-temps de tes gars?
Et souvent, j'ai trouvé que cette année, c'est nous qui nous sommes fait mal tout seuls, pas forcément... pour le match à la maison, pas forcément l'adversaire. Celui-là, j'ai trouvé qu'on avait des choses intéressantes, mais que par à-coup, il nous manquait un petit peu d'intensité dans le front three, sur le, avec et sans ballon. Et on savait que malgré tout, il y avait des décalages et des situations qu'on pouvait créer, et pourquoi pas capitaliser sur cette piste aussi. Et en deuxième mi-temps, les gars sont sortis un petit peu plus ambitieux et connectés. Et puis on pense même qu'on aurait pu faire le coup parfait. Ça aurait été génial, mais on va pas exagérer. C'était déjà une belle mi-temps de résilience et de combativité.
Jean-François Teotonio.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Félicitations pour le point ce soir. Vous avez quand même été sauvé par deux Golasso, si on veut. Mais sinon, vous avez un peu tenté le diable en faisant 5 changements par rapport à la victoire de samedi dernier. Est-ce que c'est pas un peu hasardeux, peut-être, à ce point-ci de la saison, avec des matchs aussi cruciaux, de faire autant de changements dans un alignement partant?
Il y a un élément où je suis obligé de... d'évaluer la capacité de nos gars à enchaîner beaucoup d'efforts en si peu de temps. Donc voilà, c'est un petit peu la problématique de la saison. Non, je regrette rien. Au contraire, on a évalué avec le staff que c'était non seulement la bonne opportunité de donner des opportunités à des gens qui veulent montrer des choses. Qui disent et qui veulent montrer des choses. Deuxièmement, des gars qui ont beaucoup donné dernièrement. Et là, sur un match sur le turf, on pense que malgré tout, c'était la bonne stratégie. Bon. Voilà.
Simon, ça va?
Bonsoir, Laurent.
Bonsoir.
En deuxième demi, évidemment, vous aviez le sentiment d'urgence, beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus d'intensité. Est-ce que Il y a certains joueurs, peut-être, en première demi où tu aurais aimé voir un petit peu plus de cette urgence-là, un peu plus de cette émotion-là. J'ai l'impression que vous avez perdu beaucoup de batailles aussi physiques. Est-ce que tu es en train, peut-être, de tasser? Il y a peut-être certains joueurs que tu peux tasser, peut-être, après ces performances-là?
Est-ce qu'il y a quoi? J'ai pas compris la fin.
Est-ce qu'il y a peut-être certains joueurs que tu vas peut-être tasser un peu de l'équation, éliminer un peu de l'équation après cette performance-là?
Que ce soit qualitativement ou en termes d'intensité, ou les deux. Il y a des joueurs qui sont un petit peu moins prêts que d'autres. Et donc, en fonction de ça, on va essayer de... Là, un match en milieu de semaine, dans les circonstances actuelles, on pensait que c'était la meilleure solution. Mais c'est clair qu'on n'est pas tous au même niveau d'intensité ou qualitatif. Et quand c'est les deux, c'est un souci.
Question in English, Elias.
Merci, Pat. Hi, Laurent. I wanted to talk to you a little bit about the midfielders and just how important they've been, Samuel and Nathan, in that middle of the park. You don't have Mathieu anymore. Victor doesn't seem to really be in the picture. These two seem to be carrying a lot of the weight when it comes to that role. Are they your two for the rest of the season? And what do you think, again, about their performance tonight?
I thought they were... impressive. Is it perfect? No, but yeah, they were impressive in a sense of covering the gaps and compensating for the teammate, and the tracking and the individual defending was impressive, and a couple of good quality actions too. It is true that there's a lot of weight on their shoulder. We also know that Bryce Duke can help in that position, and Clark with a different level. But yeah, it's a lot. That's the job.
John Still.
Hi, Laurent. Just a two-part question, if you'd allow me. Did looking back on the first half, did it maybe feel like there were one too many changes from the team against Charlotte? And then when you did put on the three substitutes two-thirds of the way through the match, what changed for you, in your opinion?
No, I didn't think at all. I'm comfortable with the choice that we decide. Then it's just a matter of whatever happens. But no, we were totally comfortable with based on the load, the risks, and like I said, the players that says and say that they deserve and wants to show, et cetera, et cetera. We thought that was the right timing, and to give a couple of guys a little bit of a rest for hopefully Saturday be fresh, more fresh. What was the other questions? Sorry.
John, you want to ask it again?
Yeah, the other question was just how did the game change in your opinion when the substitutions came on?
Classic of us a few times already this season where we have the exact same word. We just show a clip at halftime that says, remember what we talked about before the game? Well, it's exactly what's happening. Are we doing this? And all of a sudden, in the second half, we apply. So we haven't changed or modified anything that we talked about. We just say, see the picture? It's right there. Can we execute? And a little bit better in the second half, a lot better. It's a good point. We could have even steal something at the end, but good point, good resilience, good character. I'm happy with the guys.
Une dernière de Sydney.
Laurent, merci pour ton temps, pour ces conférences de presse à rallonge. J'aimerais juste parler de tes deux buts en dehors de la surface de réparation, deux frappes magnifiques, mais surtout des prises de risque, une envie un peu de se lâcher un peu plus peut-être dans le dernier tiers. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux voir un peu plus de tes gars de manière générale, ou parfois on a l'impression qu'on calcule un petit peu trop dans les zones de vérité?
Oui, quelquefois on force les shoots alors qu'ils sont pas vraiment encore set up de la façon qu'on aimerait les régler, tu sais. Donc c'est un peu des deux, c'est comment collectivement on arrive à reconnaître que c'est une situation pour servir quand c'est une situation pour plus faire ses entrées dans les assist zones là. Quand est-ce que c'est plus pour déclencher une frappe à distance? Et après, c'est comment on arrive à reconnaître que c'est tout le temps, continuellement, les trois qui doivent se chalouper dans notre tête et d'être prêts pour ces trois options-là constamment. Bon, aujourd'hui, ils ont pris des bons shoots from distance. Ça, c'était cadré. C'est déjà pas mal. Quand tu prends on leur dit souvent d'essayer au moins de forcer le gardien à rater, de faire un arrêt, comme ça on peut suivre le rebond. Bon, aujourd'hui, ils ont choisi de taper directement dans le net. C'est tant mieux pour eux, tant mieux pour nous.
Merci beaucoup, Laurent. Bon retour.
Merci.
Alors voilà pour le point de presse de l'entraîneur-chef Laurent Courtois qui va prendre le point avant de rentrer à la maison. On va s'arrêter quelques instants au retour. On poursuit cette émission d'après-match. Le CF Montréal livre un verdict nul de 2-2 face au Revolution en Nouvelle-Angleterre.
Vous écoutez l'après-match du CF Montréal.
BPM Sport.
De retour à cette émission d'après-match du CF Montréal sur les ondes de BPM Sport. On est arrivé à ce moment de l'année, Sid, où pendant les pauses, on regarde ensemble le classement et on tente de comprendre bon, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive. Ouais, parce que, bien sûr, le CF Montréal, présentement, là, vous devez comprendre que n'est pas maître de sa destinée. Ceci étant dit, même la Nouvelle-Angleterre, 15e avec ce verdict nul, là, est encore mathématiquement dans la course. Là. Donc vraiment, Toronto, 8e à Nouvelle-Angleterre, 15e, tout peut arriver. Ceci étant dit, j'ai vraiment envie de dire là, que les trois prochains matchs de Montréal, si tu ne vas pas chercher des résultats Même si tu demeures mathématiquement encore dans la course pour les deux derniers face à Charlotte et New York City, on va vraiment avoir bousillé une opportunité parce que à domicile, samedi, ben, c'est le Fire de Chicago qui s'amène. Le Fire de Chicago est tout juste derrière Montréal. 2 victoires, 8 défaites, 5 verdicts nuls sur les terrains adverses cette saison. Ensuite de ça, tu t'en vas. Ou plutôt non, tu reçois encore une fois à domicile la pire formation de la MLS, la seule qui est mathématiquement déjà éliminée des éliminatoires, San Jose. 2 victoires, 11 défaites, 1 verduc nul sur la route. Et même Atlanta, ben, ça va être un adversaire direct, même si c'est chez eux, ça va être difficile. Les 3 prochains matchs, c'est là, à mon avis, où la saison du CF Montréal va jouer.
Ben, déjà dans cette semaine, on est arrivé à justement aller chercher cette victoire contre Chicago à domicile, ce sera les points quasiment les plus importants pour une forme de momentum aussi là, et de, je crois, appui de la foule et des partisans parce que tu as besoin que tout le monde y croit. Et là, on sent à raison encore beaucoup de doutes et de scepticisme. Mais par la suite, effectivement, dans un calendrier qui est quand même favorable pour Montréal là, pour aller chercher des points, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et justement, j'ai hâte de voir comment le... Je sais que de match en match, là, c'est difficile des fois, et particulièrement cette saison pour le CF Montréal, mais cette remontée-là, c'est sûr qu'un point d'exclamation, un 3 points, aurait pu être encore mieux, plus intéressant, non seulement d'un point de vue classement, mais même d'un point de vue moral pour le CF Montréal. Mais j'ai hâte de voir quand même. Parce que ressortir fort là, samedi face au Fire de Chicago, et effectivement, tu es peut-être sur une petite lancée là, qui pourrait permettre de changer les esprits dans cette fin de rencontre. Là, tu as beaucoup de joueurs qui ont contribué dans les 2 derniers matchs. Ça peut au moins créer une saine compétition en attaque. T'sais, pour moi, corrige-moi si je me trompe, mais mes respects à Opoku et Vilsain, malheureusement, ne m'ont pas convaincu. Je crois que, à tout le moins, Clark doit être la formation partante samedi. Et là, ben, est-ce que ce sera Coccaro? Est-ce que ce sera Martinez? Est-ce que ce sera Duke aux côtés de Clark? Est-ce que ce sera Vilsain? Bref, si tu veux démontrer que tu fais partie de la solution pour cette fin de calendrier, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant.
Ah, Duke et Clark seront assurément de retour dans le 11 partant.
Même si Duke n'a pas joué ce soir?
Et surtout parce qu'il n'a pas joué ce soir, je pense.
Intéressant.
L'interrogation, c'est Coccaro Martinez. Parce que je pense que Coccaro en fait de plus en plus pour mériter d'être titulaire à domicile derrière des joueurs comme Clark notamment. Donc, puis peut-être que, pas peut-être, mais Pierce relance aussi le débat parce que Raheem Edwards semblait être le choix un peu sur cette fin de saison. Et là... Vraiment, je me posais beaucoup de questions là.
Oui, je te comprends, je te comprends. On va s'arrêter quelques instants. Au retour, les joueurs du match et le mot de la fin de cette émission d'après-match.
Vous écoutez l'après-match du CF Montréal.
De retour sur les ondes de BPM Sports. Sid, ce soir, dans ce verdict nul de 2-2 du CF Montréal face à la Nouvelle-Angleterre, il l'a mis dedans.
Tom Pierce, littéralement, avec ce magnifique coup franc, mais aussi ses nombreux centres et incursions. Et je trouve qu'il a été vraiment très intéressant.
Le joueur du match, donc, selon Sid, Tom Pierce, il ne l'a pas mis dedans, mais il peut dormir sur ses deux oreilles ce soir.
Gabriel Corbeau, encore une fois, extrêmement solide, qui sauve un but sur sa ligne, qui, à 2 reprises, joue excellemment bien le hors-jeu pour sa défense, et qui est vraiment, vraiment très intéressant dans ce poste de défenseur central.
Si Joel Waterman est disponible samedi, quelle est ta brigade à 3 en défense?
Alvarez, Corbeau, Waterman.
Intéressant. Très intéressant.
Avec Waterman qui revient à ses vieux amours.
À la droite?
Sur la droite de la défense.
Ce soir, il l'a mis sur la barre. Il n'a pas connu un mauvais match, mais ce n'était pas son meilleur.
C'est difficile, cette catégorie. Mais il y a beaucoup de candidats, hein, pour le coup. Là. Mais Bougaï, moi, m'a pas mal déçu. Je trouve que c'était une occasion un peu de se faire valoir. Et j'étais un peu déçu de Bougaï, mais je pourrais nommer Opoku, Vilsain aussi, qui n'a pas marqué des points, sans être vraiment, je dirais, médiocre. Hein. On est plutôt sur le manque d'intensité, enfin la capacité à mettre beaucoup d'intensité, sûrement parce que leur manque de rythme globalement, mais voilà, Bougaï.
Et ce soir, il l'a mis chez les spectateurs, c'était pas son match.
Ben, alors, en très peu de temps, Raheem Edwards,
je suis d'accord.
Enfin,
je suis d'accord.
Vraiment.
Il a failli écouter le point.
Il a tout raté. Ça m'étonne beaucoup. C'est un joueur dont j'estime beaucoup la valeur.
Mais ce qui me déçoit d'Edwards, c'est qu'il ne semble pas y avoir de juste milieu. On dirait qu'il est souvent dans la catégorie des joueurs du match ou dans la catégorie anti-joueurs du match. Il a rarement un match. Il est chaud ou froid, il est Katy Perry, il est hot and cold.
C'est bon ça. Mais il est quand même rentré à la 79e minute. Hein. Je sais pas, c'est pas comme si.
Non, c'est avec les minutes ajoutées, c'est 15 minutes.
Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment tout fait à l'envers en peu de temps et qu'il avait aussi un gros pouvoir de nuisance.
Ouais, je suis d'accord.
5 pertes de balles sur 12 ballons touchés. C'est vraiment. Raheem, là.
Ouais, c'était pas Raheem the Dream ce soir, c'était malheureusement Raheem the Nightmare.
Tu me permettras de dire bonjour à M. Bruno et M. Dupont qui nous ont envoyé des petits messages durant la diffusion, qui nous écoutent religieusement. Donc,
salutations Bruno, salutations à Dupont.
Gaëtan pour l'un et F. Point pour l'autre.
Ça aurait été bien que les deux soient Dupont.
Oui, effectivement.
Bien aimé. Dupont et Dupont. Salutations, messieurs. Merci de nous écouter religieusement. C'est très apprécié. Et vous allez pouvoir le faire, bien sûr, samedi, avant match 19h, rencontre 19h30, Stade Saputo. On parlait de revanche ce soir. Ben, j'ai hâte de voir l'esprit revanchard également samedi parce que le CF Montréal se dirigeait en mars dernier vers un troisième gain de suite à Chicago quand, justement, Raheem Edwards a pris un carton rouge et qu'une avance de quoi? De 2 buts, ou moins de 3 buts, s'est convertie en défaite pour le CF Montréal. Et un but là, in extremis du milieu du terrain en toute fin de rencontre avait propulsé le Fire de Chicago vers une victoire. Est-ce que ça sera encore frais en mémoire pour le CF Montréal? Quoi qu'il en soit, les 3 points seront primordiaux pour garder en vie l'espoir de participer aux éliminatoires de la MLS. Merci d'avoir été des nôtres ce soir, tout le monde. Mon nom est Maxime Vanhoute, en celui de Sid Fauveau à l'analyse et d'Alexis Lavoie-Martel à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres. Prudence sur les routes, c'est là que vous êtes. On vous veut en un morceau et à l'écoute du soccer du CF Montréal. Et on se retrouve samedi au Stade Saputo pour le prochain match du CF Montréal. Bonne soirée tout le monde.